Alors, vous connaissez le verset, hein, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il y a neuf qualités, neuf matières de l'esprit, du fruit de l'esprit. Et je me disais, bien, c'est le neuvième dimanche, là, et donc ça tombe bien, c'est le chiffre 9. Hein. Et j'ai réfléchi sur ce verset, et je me suis rendu compte que j'ai même pas fini le verset en étude. Il y a au moins 10 messages. Il y a déjà 9 qualités de l'esprit, 9 matières de l'esprit, et puis il y a aussi le fruit. Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est, voilà, c'est l'amour, la joie, la paix, etc., etc. Et donc, il y a au moins, il y a 10 messages. Donc, à chaque fois que je viendrai vous voir, on développera une qualité du fruit de l'esprit. Et on va s'arrêter ce matin sur le fruit. J'étais surpris, et quand on regarde la parole de Dieu, tout l'enseignement qu'il y a sur le fruit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit, il dit le fruit. Alors, et c'est vrai, parce qu'on aurait peut-être tendance à dire les fruits, parce qu'il y a plusieurs qualités, non? Mais dans un fruit, il y a aussi plusieurs matières, et il y a plusieurs qualités. D'accord? Par exemple, les fruits. Dans un fruit, il y a d'abord, qu'est-ce qu'il y a d'abord en premier qu'on voit? La peau. Ensuite, il y a la chair. Et ensuite, il y a le noyau ou les pépins. Ce matin, je disais, bon, les pépins, c'est bon, on n'en veut pas trop. Hein, on préfère le noyau. Hein, et donc, il y a ces trois qualités déjà. Il y a ces trois matières qui forment le fruit. Et c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs qualités quand Paul dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc., etc. Ça me rappelle quelque chose, là, trois en un. Non, ça vous rappelle rien, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et même pour nous, quand on va un peu plus loin, notre corps, notre âme et notre esprit. Et même encore pour nous, notre corps est constitué comme le fruit de peau, de chair, on ne va pas dire de noyau, mais de squelette. Le noyau dans le fruit, c'est un petit peu le squelette. Et nous sommes constitués de peau, de chair et le squelette, hein, qui nous tient debout. Hein, la Trinité. Hein, on retrouve une Trinité là, même dans... Nous avons été créés avec un corps, une âme et un esprit. Amen. Ça, c'est le fruit. C'est pas les fruits. Et je me suis rendu compte aussi que même quand le fruit est détaché, il peut encore porter du fruit. Et je pensais à ce texte que j'ai mis sur mes notes dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, quand Jésus dit, vous connaissez ce verset, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça nous parle, hein. Et pour porter beaucoup de fruits, la parole de Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes. Je pensais à ce texte qu'on retrouve aussi dans Galates chapitre 2, verset 20, quand l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il y a une mort à soi-même. Si le grain de blé tombe et qu'il ne meurt pas, il reste seul, dans la solitude. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire, porter beaucoup de fruits. Alors j'ai regardé un petit peu en parallèle, hein. On met une application spirituelle. Peut-être souligner avant la différence qu'il y a entre le fruit de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Des fois on mélange tout. Je dis, tiens, ça serait bien de le souligner. Le fruit de l'esprit, c'est ce que nous pouvons tous porter, c'est ce que nous devons tous porter, le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui s'est repenti de ses fautes, quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui a décidé de marcher avec le Seigneur, il doit porter ce fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, etc., etc. Amen. C'est ce que nous devons porter. Alors, vous aimez, ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit, et ensuite, il y a les dons spirituels. Mais quand même, c'est important, ça. Des fois, je disais, on mélange le baptême du Saint-Esprit avec le fruit de l'Esprit. Non, non, non. Le Saint-Esprit, nous l'avons. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience, mais le Saint-Esprit, nous l'avons. Quand nous sommes convertis, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Alors, la preuve, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, je crois que c'est au verset 4, quand il dit que nul, vous rappelez de ce verset ? Nul ne peut dire, je vous le souligne pour vous encourager, peut-être que vous dites, ouais, mais moi j'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, est-ce que je peux porter le fruit de l'Esprit ? Oui, nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors on va faire un tout petit exercice, excusez-moi, hein ? Vous me permettez ? On va juste dire Seigneur. Dites Seigneur. Dites-le mieux. Seigneur. Seigneur. Et la Bible dit que nul ne peut. Et je priais ce matin, je dis, mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas prononcer le nom du Seigneur. Et ça, alors vous allez me dire, c'est la base. C'est la base. Nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Jean qui le dit dans l'évangile. Je vous donne la référence. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, et il parle du Consolateur. Jésus, quand il dit que quand le Consolateur sera venu, c'est lui qui va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus. On a reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on va le voir dans quelques instants, très courtement, c'est une autre expérience. Et les dons spirituels, ce sont encore une autre expérience. Mais nul ne peut. C'est le Saint-Esprit qui nous a touchés. Donc, je reviens au fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, nous devons tous porter ce fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde aussi. Quand on lit dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38, après le discours de Pierre, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et le baptême du Saint-Esprit, la promesse du baptême du Saint-Esprit, elle est pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Amen. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse qui pour moi est importante, c'est que le seul et unique signe initial du baptême du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, c'est le parler en langue. Amen. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit quand je parle en langue. Amen. C'est pas quand je pleure, c'est pas quand je ris, c'est pas... Non. C'est quand je parle en langue, hein, là je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Après, les dons spirituels, c'est autre chose. Vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 12, encore à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, il est question des 9 dons spirituels. Ça, c'est encore une autre expérience, pour ne pas tout mélanger. Hein. Et vous savez qu'il y a 9 dons, 3 groupes de 3, les premiers... Donc, c'est des dons de révélation, dons de connaissance, dons de sagesse et dons de discernement des esprits. Ensuite, il y a le don de puissance, le don de foi, d'opérer des miracles, le don des guérisons. Ça, c'est les dons de puissance. Et puis, il y a les dons qu'on interprète le plus dans les assemblées de Pentecôte. C'est les dons d'inspiration, la prophétie, le parler en langue et l'interprétation de la langue. Mais vous voyez, il y a des étapes. Mais je reviens... Pour moi, à mon sujet, le fruit de l'Esprit, nous devons tous le porter, parce que nous avons le Saint-Esprit, même si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. On est d'accord ? Hein ? Voilà, un petit peu, je tenais quand même à le souligner. Alors, on va juste faire un petit parallèle, après on va s'arrêter sur quelques exemples de la parole de Dieu où les questions... J'ai condensé, parce que dans l'étude que j'ai faite, il y avait au moins 3 messages sur le fruit, au moins. Donc je condense, hein. On retourne à l'aspect du fruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous aimez les fruits ? Non, C'est non, sérieux. Bon, moi, je mange beaucoup de fruits. J'aime les fruits. Et quand on va acheter des fruits, vous avez remarqué, ils sont tous calibrés et ils sont tous beaux. Et alors, je réfléchissais. Ils sont tous beaux, ils sont tous calibrés. Beau, c'est une chose. Après, on va le voir, hein. C'est déjà pas mal. Et ils sont beaux. Et je me disais, mais voilà, vous êtes beaux et belles. Amen. Eh oui, c'est important ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, dans le psaume 45, il est dit que c'était le plus beau. Vous voulez qu'on le lise? Allez, on va le lire. Psaume 45, si vous avez vos Bibles, versets 2 et 3. Jésus, c'était le plus beau. Dans un autre texte, vous allez me dire, ouais, mais il n'avait ni beauté ni éclat. Mais dans ce passage du psaume 45, il est dit ceci, verset 2, et je me disais, Seigneur, qu'on puisse avoir ces paroles-là aussi. Partage simplement avec vous, hein. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Voilà, que ma langue soit comme un habile écrivain, hein. Et il est dit ceci au verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Jésus, c'est le plus beau. Amen. Et le fruit, il est beau. Il est beau, le fruit. Important, ça, hein, la beauté du fruit. Mais, vous savez, vous voyez où je veux en venir. Des fois, on achète des fruits, ils sont beaux. Et puis, soit on les épluche, soit on les lave, et quand on commence à mordre dedans, bien, on se rend compte que, des fois, il y a des. Et on se demande même comment ils font les vers pour rentrer. Et ils sont attaqués, ils sont pas bons, etc. Et voilà. Et donc, il peut être beau, beau à l'extérieur. Mais moins beau à l'intérieur. Et là, je faisais un parallèle aussi. Et quand Jésus va voir les pharisiens au chapitre 23, il leur dit, vous êtes beaux. Il le dit au verset. Allez, vous voulez qu'on le lise? Comme ça, je vais pas le esquinter les versets. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, etc. Et c'est un petit peu comme ça le fruit, hein. Des fois ils sont beaux, et puis dedans, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Alors être beau à l'extérieur et bon à l'intérieur. Amen. C'est ça le fruit de l'esprit, hein. Être beau et bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'avais pris cet exemple aussi. Quand on voit le fruit, ils sont beaux et on se fait avoir. Hein. L'exemple de Samuel quand il va dans la maison d'Isaïe pour choisir le deuxième roi dans la personne de David. Vous vous rappelez? 1 Samuel chapitre 16, il va passer en revue sept fils de les huit fils de David et ensuite et il dit et il va s'arrêter sur le premier. Lui, il n'était pas trop inspiré là et il dira mais c'est Éliab et Dieu dit non non. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il a vu le gars, c'était un costaud, hein, et il dépassait les autres d'une tête. Et Dieu dit non, non, non. Et on est un petit peu comme ça avec le fruit aussi. Il faut qu'il soit beau et il faut qu'il soit bon. Le fruit aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des fruits qui ont la peau. Je ne fais pas de jeu de mots, hein. Pas du tout, c'est pas trop mon style, mais qui ont la peau lisse, hein, la peau du fruit est lisse. D'autres fruits ont la peau un peu plus rugueuse, et puis il y a des fruits même qui sont épineux, qu'on peut même pas prendre. Hein, style les figues de Barbarie, je sais pas si vous, hein, et puis il faut prendre des gants, il faut les couper, etc., etc. Qu'on soit des fruits beaux, bons à l'intérieur, et puis lisses. Quand c'est commence à être rugueux, hein, quand il y a un peu d'adhérence comme ça, c'est pas trop bon. Et puis quand il faut prendre des gants pour prendre ses fruits, c'est encore pas bon. Il y a aussi le goût dans le fruit. Et ça nous parle aussi. Il y a le goût sucré, il y a le goût très sucré, il y a le goût acidulé. Il y a un petit peu d'acide. Il y en a qui aiment ça. Et puis, il y a des fruits qui sont amers, qui sont fades. Et j'ai même, je regardais sur Internet, il y a un fruit qui est infect à l'odeur. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. C'est le durian. C'est un fruit asiatique. Il paraît que ça sent mauvais. Ça sent toutes les odeurs. C'est terrible. Hein? Et alors qu'on puisse être ce fruit qui a un bon goût. Hein? Et puis, parce que des fois, on croque dans le fruit et puis il est pas bon. Hein? Il est vraiment pas bon. Hein? Il est amer, voire acide. Il est beau, mais il est pas bon. Et ça je le dis, c'est pour l'Église, et je le dirai dans toutes les églises où je passerai. Il y a le fruit exotique aussi. Faisons attention aux fruits exotiques. Pour moi, je mets un parallèle avec les fausses doctrines et avec les nouvelles doctrines. Quand il est exotique, tout ce qui est « Ah, c'est exotique !» Non, faites attention. Faisons attention. Je dois faire attention à tous ces fruits qui peuvent arriver, qui paraissent beaux au départ, qui paraissent bons, mais je parle au niveau de doctrine là en même temps, hein, vous comprenez, et je dois faire attention. C'est pas parce que ça, tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas toujours bon. Tout ce qui est exotique n'est pas toujours bon. Et on doit faire attention avec toutes ces fausses doctrines qui circulent dans les assemblées, qui circulent dans les églises, qui circulent sur Internet. Faites attention à tous ces fruits. Ah, ils sont beaux, ouais. Non, on doit faire attention à tout ce qui peut. Et je ne vais pas rentrer dans toutes ces fausses doctrines. On en parlera certainement à une autre occasion. Mais en tout cas, moi, je fais attention à tous ces nouveaux fruits exotiques. Hein, que Dieu nous aide. Il y a aussi, dans le fruit, il y a le rapport nutritif. Je ne suis pas trop doué, moi, dans le nutritif, mais je sais qu'il y a des fruits qui sont caloriques, qui sont bons, il y en a qui sont hypercaloriques, et puis il y en a qui sont pauvres en calories, hein, qui n'ont aucune calorie. Moi, je sais que je mange tous les matins, je mange une banane, comme ça, vous savez que, voilà, tout le matin, je mange une banane avec du pain, avec du beurre, avec du miel, et ça tonifie. Hein. Et c'est tonifiant. Mais il y a des fruits, par exemple, il me semble que la pomme, ça c'est pour les régimes, hein, pour ceux qui font du régime. Voilà, tu manges une pomme, ça te cale, tu bois un verre d'eau et c'est bon. Hein. Non. Donc il y a des fruits qui sont hyper caloriques. Soyons caloriques. Soyons caloriques, c'est-à-dire qu'au contact du frère et de la sœur, on va apporter cette calorie spirituelle à l'autre, hein, dans nos propos, dans nos paroles, dans notre vision, dans notre amour, dans notre compassion, hein, qu'il y ait ces bonnes calories, et qu'il n'y ait pas un morceau de pomme là, et puis qu'il n'y ait rien du tout. Voilà, je tenais quand même à le rappeler. On va s'arrêter maintenant, si vous voulez, sur les incontournables des fruits dans la parole de Dieu. Il y a des incontournables. Quand on lit la création au chapitre 1er, au verset 11, le troisième jour, le Seigneur va créer. Amen. On croit toujours qu'il est le créateur de toutes choses. Hein. Il va créer les arbres, il va créer la verdure, et il va créer les arbres fruitiers, et il va créer le fruit, le troisième jour. Amen. Ensuite, je vais le lire, au chapitre 1er aussi, au verset 29, quand il crée l'homme, il lui donne ce pouvoir, il lui dit ceci, chapitre 1er, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. On retrouve déjà le fruit au tout début. Et puis, je disais, un incontournable, c'est le chapitre 3 du livre de la Genèse. Vous vous rappelez que le serpent va s'incarner, le diable, pardon, va s'incarner dans le serpent. Il va aller vers Ève et il dira, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Et le texte nous dit que Ève a vu le fruit, il était beau, il était bon. Et ça, c'est l'œuvre du malin, hein. Il met le doute, Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu avait dit, vous pourrez manger de tous les arbres, de tous les fruits du jardin, mais vous ne mangerez pas le fruit qui est au milieu, l'arbre et le fruit qui est au milieu du jardin, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable, il met le doute. Elle a vu que le fruit était bon, on sait ce qui s'est passé. Elle a commencé à réfléchir, et puis elle a pris le fruit, elle en a donné, et puis là, le péché est entré. Le texte nous parle du fruit. Regardez, je vais sans aller trop loin, il dit ceci. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est ce que je disais, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, etc. Et puis elle va voir, et puis on sait ce qui s'est passé, on connaît toute la suite, et toutes les conséquences quand même, toutes les conséquences que ça a apporté. Et même, là, je pense à une autre pensée concernant, malgré la chute, le Seigneur va aller vers eux dans le chapitre 3, il va les couvrir. Bien sûr, il y aura quelques conséquences, mais il va déjà prévoir. On a déjà, dans le chapitre 3, frères et sœurs, on a déjà, d'une manière prophétique, le pardon du Seigneur, quand Dieu dira, mais la tête du serpent sera écrasée et tu lui blesseras le talon. Et là, on y voit déjà toute le tout accompli de Jésus. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Donc ça, c'est les incontournables des fruits. Alors, on va s'arrêter sur un autre. Ça aussi, je dis, tiens, il faudrait que je le souligne. Il y a beaucoup de passages, mais il y en a quelques-uns qui m'ont interpellé. Dans le chapitre 7 du livre du Deutéronome, regardez ce qu'il est dit. Et ça, je pense que c'est pour nous aussi. Il est question du fruit de nos entrailles, c'est-à-dire du fruit de notre descendance, des nôtres. On peut même l'appliquer au fruit de la descendance de l'Église. Regardez ce qu'il est dit, chapitre 7, verset 12. « Si vous écoutez ces ordonnances, Deutéronome 7, 12, si vous écoutez ces ordonnances, et si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. » C'est bien. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera et il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni, etc., etc. Et je me dis, mais enfin, moi je me le dis pour moi, Seigneur, moi je veux que ma descendance soit bénie, le fruit de mes entrailles. Alors bien sûr, il y a une condition, cette condition, elle parcourt toute la Bible, frères et sœurs, c'est l'obéissance, on l'a lu, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel te bénira, amen, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, etc. Et si on veut être béni, si on veut voir notre descendance, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge ou des jeunes. Pour moi, en tant que grand-père, j'ai des petits-enfants et les enfants aussi, nos enfants. On veut voir le fruit de nos entrailles, mais pour cela, Dieu nous demande d'obéir, hein, et notre descendance, notre génération, tout à l'heure il était question de génération dans le champ, elle sera aussi bénie s'il trouve en nous de l'obéissance, le fruit de nos entrailles sera béni. Par contre, j'ai relevé aussi ce verset, s'il n'y a pas obéissance, le fruit va disparaître. Regardez, Deutéronome 28, j'avais relevé ce passage aussi, Deutéronome chapitre 28, verset 33. Il est dit ceci, le peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Et s'il n'y a pas cette obéissance, l'ennemi, lui, il va tout dévorer. La Bible dit que il est comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Qu'on puisse dire, Seigneur, moi je veux obéir pour voir le fruit de mes entrailles être béni et être multiplié. Gloire à Dieu, hein, que Dieu soit béni. Alors ça, c'est un incontournable. C'est dans le psaume 1. Rappelez de ces versets. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Amen. Hein, ça, c'est dans le psaume 1. Voilà, il est près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Je riais, c'est pour moi, ça, c'est pas pour vous, mais je riais parce que il est dit que son feuillage ne se flétrit point. Je dis, moi, Seigneur, j'ai plus de feuilles, tout est tombé, hein, le feuillage, il n'y a plus de feuilles, voilà, on se flétrit, hein, non? Faites attention au soleil aussi, il paraît que le soleil, ça marque, hein, voilà. Mais si on est près d'un courant d'eau, et l'eau, bien sûr, il y a au moins trois symboles dans la parole de Dieu, hein. C'est la parole, c'est l'esprit et c'est l'engagement, hein, et c'est le baptême. Et si on est près de ce courant d'eau, on va porter son fruit en sa saison et notre feuillage. Voilà. Alors, je vais essayer d'être le plus près de l'eau pour peut-être avoir des feuilles qui repoussent, mais bon, je sais pas trop si ça va marcher. Et en tout cas, on va porter du fruit en sa saison. Ce qui est important, c'est de porter le fruit. Amen. Qu'on puisse toujours être alimenté par cette eau. Gloire à Dieu. La Bible dit que dans le désert, il y a un rocher qui les accompagnait. Ce rocher, c'était Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, celui-là, c'est l'incontournable des incontournables. On va le lire ensemble. Et je ris parce que c'est pour les retraités. Regardez ce qui est écrit. C'est pour les vieux comme moi, voilà. Allez, psaume 92, versets 13 à 16. Regardez. Les justes, croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il porte encore du fruit, Seigneur, que je puisse porter encore du fruit jusqu'à la fin. Et alors, il y a un personnage qui va comme un gant, là. Peut-être que vous avez déjà anticipé. Il y a un personnage qui va comme un gant de l'Ancien Testament. Il est avec Josué, je vous aide. Caleb, c'est un symbole de persévérance. Hein, 45 ans après, il va demander sa part. Et il dira, mais j'ai 85 ans et j'ai la même force qu'à 40 ans. Moi, je demande pas grand-chose. Hein, avoir la même force à 85 qu'à 40. Hein, amen. Et il dira, donne-moi cette montagne. Il porte encore du fruit en sa saison et ils sont pleins de... Voilà, Seigneur, renouvelle-nous dans cette sève et on veut porter encore du fruit à la gloire et à l'honneur du Seigneur. Amen. Il est mon rocher, il n'a point en lui d'iniquité. Que Dieu soit béni. Amen. Il est écrit ceci dans le Proverbe 11. Là aussi, on le connaît bien, ce proverbe. En tout cas, on connaît la deuxième partie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Proverbe 11:30, pardon. Le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie. Voilà, il communique la vie. Et puis ensuite, il est dit, toujours dans cette même pensée, et celui qui gagne des âmes est sage. Alors, vous allez avoir une mission. Dimanche prochain, le 1er septembre, je serai avec vous aussi. C'est pas moi qui vais prêcher, mais je serai là. Et puis, voilà, on travaille pour gagner des âmes. On est des gagneurs d'âmes. Amen. Hein, je me rappellerai toujours au début de ma conversion, il y avait ces petits livrets du gagneur d'âmes. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Le gagneur d'âme, et voilà, il fallait aller témoigner, etc. Alors, au début, c'était dur. Hein. Et puis, on allait. Et c'est la mission de l'Église. Je le dis souvent dans l'Église, quelle que soit l'Église, c'est la mission de l'Église. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre mission. C'est la mission de l'Église d'Aubagne. Amen. C'est notre mission. Gloire à Dieu. Je m'inclus aussi dans cette mission. Gloire à Dieu, il gagne des âmes. Proverbe 22:4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Et là, il y a des dizaines de messages là sur l'humilité. Je le disais, là, j'ai un peu remplacé, j'étais un peu partout. Et que Dieu nous garde dans l'humilité. Frères et sœurs, mais ça, c'est pareil, c'est un incontournable. Si Dieu voit de l'orgueil, même de l'orgueil, il peut y avoir de l'orgueil spirituel. Ne sois pas juste à l'excès, par exemple. C'est Salomon qui le dit. Le verset m'échappe. Hein. Je crois que c'est dans le livre des... livre des Proverbes, certainement, ou dans l'Ecclésiaste. Mais en tout cas, il dit, ne sois pas juste. On doit faire attention hein, de ne pas être dans tous ces excès et de rester dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et même nous, moi, j'ouvre mon cœur, hein, même nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit faire très, très attention parce que Dieu peut... que Dieu nous garde. Hein, un peu de succès, un peu de savoir-faire. Au bout de tant d'années, bon, quand même, on y arrive un peu, quoi. On se débrouille un peu, hein. Mais il faut faire attention qu'il y ait ce fruit toujours de l'humilité. La Bible dit que Jésus était doux et humble de cœur. Amen. Et bon, ben, voilà, moi je reste dans l'humilité, dans l'humiliation. Paul dit, nous étions dans l'humiliation. Hein. Celui qui s'abaisse, connaissez ce que dira Jésus, celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et celui qui s'élève, il sera abaissé. Que le Seigneur nous garde dans cette humilité. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Voilà, c'est la richesse, la gloire et puis la vie. Dans le Nouveau Testament aussi, et je ne prends que quelques exemples, de suite qui apparaissent dans les premières lignes du Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, où Jean-Baptiste va être le précurseur, c'est celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Vous savez ce qu'il dira ? Portez du fruit digne de la repentance. Portez du fruit digne de la repentance. Il dira, la cognée est déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne portera pas de bons fruits, il le dit. Il sera coupé, il sera retranché, il sera jeté, il sera brûlé, mais porté du fruit digne de la repentance. Là aussi, c'est important. On n'aime plus parler de la repentance. Ah, il faut plus parler. Ça les blesse, ça les condamne, etc. Mais s'il n'y a pas la repentance, mes frères et mes sœurs, il n'y a rien du tout. Si on marche pas dans la repentance, si on ne vit pas dans la repentance, mais il n'y a rien. Le Seigneur le voit, lui. Il voit très bien si on est repentant, si on sait se réconcilier, si on sait pardonner. Le Seigneur le voit. Et s'il y a ça, il y a la bénédiction. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est pas possible. Ne pensez pas que le Seigneur oublie. Non, 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 il sait. Il dira, mais portez du fruit digne de la repentance. Il y a un autre texte qui dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. J'avais pris l'exemple du concernant la repentance, l'exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 9, avec le publicain et le pharisien, c'est un exemple type de la repentance. Le pharisien était plein de lui-même, moi je ne suis pas comme le reste de ce monde, tatati, tatata, excusez-moi, et puis rien du tout, quoi. Et le publicain, il se frappait la poitrine, il disait, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur dira, mais cet homme est reparti dans sa maison justifiée. Et d'ailleurs, il dira en conclusion, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Hein? Il se repent, il demande pardon. Et la vie de l'Église, c'est ça, hein, frères et sœurs. Hein? Je ne vous apprends rien. La vie de l'Église, c'est de marcher dans la repentance, de marcher dans le pardon et de marcher dans la réconciliation. Si Dieu voit ça, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir, frères et sœurs. C'est obligé, ça. C'est obligé que Dieu soit béni. Donc, on retrouve donc ce fruit. Dans l'évangile de Matthieu, il est question de la parabole du bon grain de l'ivraie. Il est question du fruit, là aussi. Peut-être qu'on pourrait le souligner. Matthieu chapitre 13, je prends juste le verset où il est question du fruit. C'est au verset 28. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Hein, il est question de l'ennemi là, qui vient semer de livrer au milieu du champ. Hein. La Bible dit que le champ, c'est chez le monde, le bon grain, c'est nous, et puis il y a livré qui semait. J'ai appris quelque chose concernant livré. Bon, on sait que le mot ivré en grec, ça signifie zizania, qui a donné zizanie en français, mais je ne savais pas, j'ai appris comme quoi qu'on en apprend toujours, hein, que livré, il récupère, certaines tribus récupéraient cet ivré, et du mot ivré et ivresse, et il faisait griller ces herbes-là, ces graines qui ressemblaient à du blé, et ils étaient comme ivres avec ces herbes, avec ces grains grillés, hein, du nom donc de ivré qu'on retrouve dans notre langue française. Ça, je savais pas. Je savais que le mot ivré, ça signifiait zizanie, et que Dieu nous garde de l'ivré, et qu'on puisse porter du bon fruit, du blé. Amen. Amen, ça c'est important ça, hein? Parce que l'ennemi, il sèmera toujours, hein? S'il peut semer un petit peu là. Et il paraît que l'ivraie ressemble énormément au bon grain. Et c'est pour ça que le cultivateur il dit, mais tu veux qu'on arrache? Et la parabole nous dit, non, non, n'arrache pas. C'est à la fin que le Seigneur, lui, il va faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Parce que des fois, en arrachant, on peut arracher aussi le bon grain. Et des fois même, en agissant, à ma grande honte, on peut des fois, nous aussi, on a voulu peut-être arracher sans consulter le Seigneur, et puis on a fait des dégâts. Hein, que Dieu nous aide à laisser des fois, il faut laisser le Seigneur faire. Il faut le laisser faire, et puis lui, il va savoir faire le tri, il va savoir faire la sélection. Il y avait aussi ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 13 avec le figuier, vous savez. Là, il est question du fruit aussi. Ce figuier qui est au milieu du champ de vigne. Et la parabole dit ceci, le vigneron va venir et il va pas trouver de fruits dans le figuier. Et il dira, mais attends, ça fait que 3 ans. Et là, il est question de la patience du Seigneur. Et il dira, mais non, attends, je vais encore creuser. Vous connaissez cette parabole, hein? Et je vais creuser, je vais mettre du fumier, etc. Je vais entretenir pour qu'il porte du fruit, ce figuier. Et en parallèle, il y a aussi ce passage dans l'évangile de Marc où Jésus va vouloir manger le fruit. Vous aimez les figues? Non, sérieux, vous aimez les figues? Je raffole des figues. Et c'est vrai, hein? Et ça va être bientôt là. Je ne sais pas s'il y a des précoces ou quoi. Pour l'instant, on n'en voit pas trop sur les étals. Mais il va vouloir manger du fruit. Et vous vous rappelez de ce passage? Il va pas trouver de fruits. Alors ça, certainement, vous l'avez déjà entendu, ça c'est typiquement pastoral. Il était plein de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Hein? C'est un petit peu des fois ce qui peut se passer dans nos vies. Des fois, on est plein de feuilles. Alors, il était beau le figuier, mais il n'y avait aucun fruit. Et puis, vous savez ce qui va se passer. Il va maudire le figuier qu'aucun fruit ne naisse de toi, etc. Hein, qu'on puisse porter du fruit. Hein, aussi, et ne pas être rejeté comme ce figuier qui était stérile, en fait, qui était stérile, que Dieu nous renouvelle. Je termine. Marc chapitre 14, verset, ça a été souligné tout à l'heure par le frère à la Sainte-Seine. Il dit, tiens, un petit clin d'œil. Hein. Dans l'évangile de Marc chapitre 14, verset 25, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Ça nous parle de la Sainte-Seine. C'est tellement important, la Sainte-Seine, qu'on puisse pas, qu'on puisse se rappeler et faire la toilette spirituelle. Hein. S'il y a quelque chose, se réconcilier avec le Seigneur, se réconcilier avec son frère, etc. Et ensuite, on va prendre, il y aura du vin nouveau. La Bible nous parle du vin nouveau dans le livre d'Apocalypse, etc. Hein, le grand banquet, il va y avoir des banquets là, avec le samedi avec la jeunesse et puis le dimanche, etc. Mais c'est rien à côté de ce qu'on va vivre dans le ciel. Amen. Ça nous parle du Saint Repas, hein, commémorer la mort. Vous savez, dans la commémoration, vous le savez, il y a la mort et la résurrection et le retour. Faites ceci jusqu'à ce que je vienne. Amen. Et il y a le retour de Jésus. Là aussi, on pourrait parler beaucoup. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas trop du retour de Jésus. Et Jésus est à la porte quand on voit tout ce qui se passe encore dernièrement avec tous ces attentats là sur Montpellier, etc. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 6, verset 22, il est question du fruit. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le fruit de la sainteté. Hein, qu'on puisse porter ce fruit de la sainteté. Et je termine. Et on va peut-être terminer justement par ce verset, et puis on va le mettre en pratique. Vous voulez? C'est dans l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux. L'auteur est inconnu. Hébreux chapitre 13, verset 15, il est dit ceci. Par lui, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Hein? Vous voulez qu'on le fasse? Qu'on bénisse le Seigneur? Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je veux bénir le Seigneur, je veux le louer, je veux l'adorer, je veux le remercier, je veux lui rendre grâce. Que toute la gloire lui en revient. Amen. On va